Donc j'ai moi aussi eu un choix à faire sur la façon dont j'allais aborder ce thème, nouveau concept, nouvelle question, dans le champ de recherche qui est le mien et qui est l'histoire des sciences et qui est donc un des champs scientifiques enseignés et cultivés sur l'université Paris Sud et sur Orsay. Je me félicite de la façon dont on a pensé à construire cet après-midi, dans la mesure où j'ai des convergences avec beaucoup de choses qui ont déjà été dites. C'est-à-dire, je me suis retrouvée dans et ce que je vais vous dire va finalement recouvrir des choses déjà exposées dans les trois. Dans les trois exposés donnés. Vous les verrez en route, mais je les signale parce que je n'aurai peut-être pas le réflexe de réinsister dessus. Et je pense que la convergence est aussi quelque chose qui correspond à un stade nouveau, en tout cas de mon domaine, l'histoire des sciences, mais je pense d'une certaine façon des autres champs également. Pour ce qui est de l'économie, ce que Sabine a pu dire de la géographie de l'innovation, de la proximité, de la diffusion tacite, locale, non codifiée de la connaissance, ce qu'elle a pu dire sur la production, l'accumulation, l'aspect collectif de cette accumulation de connaissances, sur l'innovation comme processus complexe, incertain, ce sont des problématiques qui sont entrées en histoire des sciences et que je signalerai à un moment, prendre ces choses-là à bras-le-corps. La part de la sociologie, la part de Bourdieu, c'est aussi une des choses qui a enrichi et renouvelé la façon dont l'histoire des sciences a été considérée, même si, par rapport à l'exposé de Christian Pociello, l'image, a contrario, qui pouvait se dessiner du scientifique classique par rapport aux spécialistes des sciences sociales, à mon avis, un peu trop plate, neutre, idyllique, asociale, non contextualisée, et vouloir montrer que, y compris les sciences dures, ne sont pas aussi planes que cela semble, c'est une des nouvelles dimensions de l'histoire des sciences. Et enfin, je me suis tout à fait retrouvée dans la volonté de mettre du désordre dans un paysage un peu trop, je ne sais pas si c'est un trait féminin, mais la volonté de mettre du désordre dans un paysage un peu trop réglé, c'est quelque chose que je partage avec des collègues masculins et féminins dans les nouvelles problématiques et historiographies de l'histoire des sciences. Donc, j'en viens à mon sujet et j'ai voulu mettre ces nouveaux objets sous une étiquette qui est celle du XXe siècle. Étudier le XXe siècle, nouveaux objets, nouvelles problématiques et nouveaux enjeux pour l'histoire des sciences. Alors, je partirai d'une première constatation. Sur 200 thèses en cours aujourd'hui en histoire des sciences, ce qui correspond à peu près à plus de la moitié, les trois quarts des thèses qui sont en train de se faire dans ce domaine en France, 45% portent sur le XXe siècle. C'est énorme, sachant qu'on peut travailler depuis l'Antiquité quand même chez nous. Donc ça fait beaucoup. Sur la population des enseignants-chercheurs qualifiés, pour devenir maître de conférence dans ma section, qui est la 72e section depuis 2 ou 3 ans, plus de la moitié des thèses qu'ils ont, quand ils demandent à être qualifiés, qu'ils viennent de soutenir, portent sur le XXe siècle ou sur le XIXe et le XXe siècle. Enfin, je vous ai pris 2 annonces de séminaires. On a une liste de diffusion d'histoire des sciences. Donc, 2 annonces de séminaires récents, en histoire des sciences, donc en voilà. Attendez, non, celui-là c'est le colloque, donc on commence par le séminaire. Un séminaire d'histoire des sciences à l'École des hautes études, dont le titre c'était en rouge. Donc, la recherche en débat, l'engagement scientifique de la République des savants à la démocratie technique, 45-2004. Et vous avez le texte d'annonce du colloque. L'engagement des chercheurs est un chantier peu exploré de l'histoire des intellectuels, mais aussi par l'histoire des sciences, du savant compagnon de route au lanceur d'alerte sanitaire. En passant par l'intellectuel spécifique, le séminaire s'attachera aux multiples formes prises par l'engagement public des scientifiques depuis 50 ans. Donc là, on est dans le second XXe siècle, l'après-Seconde Guerre mondiale. Relève-t-il des formes d'engagement traditionnelles des intellectuels? Assiste-t-on à des changements d'échelle? Voit-on se constituer de nouveaux lieux d'intervention? Peut-on proposer des périodisations qui prennent en compte les transformations des modes de production, savoir transformation de l'espace public des sciences? à travers des épisodes comme le colloque de Caen, le mouvement Sauvons la recherche, de l'année dernière donc, l'appel des 400 sur l'électronucléaire ou les mobilisations SIDA ou OGM, on s'intéressera cette année aux mobilisations des chercheurs autour d'un type de cause particulier, celles qui ont visé à constituer la recherche et la technologie comme problème social dans les arènes publiques. Donc, c'est une annonce d'un séminaire, et j'en ai relevé une autre, un colloque en Belgique qui s'est tenu en avril, « Histoire de la politique scientifique ». Vous avez donc une déclaration sur le savoir, sa création, sa diffusion, son appropriation dans le champ économique, fait volontiers figure de troisième facteur de production après le capital et le travail. La science semble être investie d'une mission de nature politique. Or, la notion même de politique scientifique doit être entendue comme, etc. Dans une très large mesure, l'histoire de la politique scientifique en Belgique, c'est un colloque belge, mais il y a eu des conférenciers d'un certain nombre de pays. Et donc, c'est un colloque d'histoire organisé par des historiens des sciences dans lequel ils ont invité un certain nombre de collègues d'autres disciplines, dont des économistes, etc. Alors, je vous avais préparé la liste des séminaires et des sessions, mais ce n'est pas la peine. Ce que je voudrais juste faire remarquer, c'est que c'est une réalité toute récente de mon domaine. Et c'est ce poids du XXe siècle et des dernières décennies du XXe siècle est donc une réalité récente, mais qui fait partie d'un renouvellement historiographique profond de l'histoire des sciences en France depuis une vingtaine d'années. Et un renouvellement qui porte sur les objets, sur les problématiques et par conséquent, je finirai par là si j'ai le temps, les enjeux de l'histoire des sciences. Alors, le renouvellement historiographique. Jusqu'aux années 60, 1960, une certitude domine quant à la nature de la science, et ça particulièrement en France. La science a une logique tout à fait particulière de développement. Elle est la réalisation d'un système autonome de pensée dont l'efficace propre s'enracine dans une méthode. Les sciences sont perçues comme se construisant selon des procédures explicites et des procédures largement imperméables aux vicissitudes de l'humain et du social. Du coup, évoluant largement en marge de ce qui organise la société, la science a, selon ce schéma, une logique propre de croissance, logique qui demande pour être parfaitement saisie un traitement historique spécifique. Et parce que le plus intéressant de la science, selon cette conception, se joue dans la manière dont elle valide des énoncés qui sont socialement neutres, et très secondairement dans la manière dont elle s'insère dans un champ historique ordinaire, dans un temps historique ordinaire, l'histoire qui la concerne, l'histoire qu'on fait de la science, est une histoire à part. Une histoire qui doit mettre les questions épistémologiques au centre de ces questionnements. D'où la légitimité d'une très forte tradition épistémologique jusque dans les années 60 dans l'histoire des sciences. Et en effet, jusque dans les années 60-70, encore pour partie aujourd'hui, en France particulièrement, l'histoire des sciences a été marquée par une très forte tradition épistémologique autour de deux figures tutélaires dont vous ne pouvez pas ignorer les noms, Bachelard et Coiré. Et l'histoire qui a été faite, du coup, il s'agissait essentiellement d'une histoire des idées, une histoire des concepts scientifiques ancrés dans une réflexion épistémologique et dont les objets étaient les seuls résultats et découvertes d'exception. Résultats et découvertes reconnus comme d'exception, a posteriori bien entendu, comme déterminants dans les progrès et les avancées des différents champs disciplinaires. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de place pour les deux annonces de colloques et de séminaires que je vous ai montrées. Or, on a assisté à partir des années 70-80 à un premier mouvement historiographique d'ampleur internationale, porteur d'une nouvelle conception de l'histoire des sciences et inspiré notamment par les travaux de Thomas Kuhn, sur les paradigmes, les révolutions scientifiques, c'est-à-dire l'idée que les sciences n'ont pas une histoire linéaire d'accumulation progressive, mais ça casse, ça change de cadre, ça se rompt. Mais surtout, ce qui a eu un autre effet extrêmement important en science, c'est l'idée que la science fonctionne aussi en dehors de ces périodes de révolution scientifique qui sont quand même peu fréquentes. La science, il y a eu ce concept de science normale, c'est-à-dire l'idée que, au-delà des figures d'exception, des moments d'exception, des résultats d'exception, l'histoire des sciences est pour une grande part l'histoire d'une science qui fonctionne de façon consensuelle dans un cadre normal. La scène scientifique s'est alors épaissie et on n'a plus alors Ptolémée, Galilée, Newton, Lavoisier, Gauss, Pasteur, d'autres, etc. Et ces derniers ont pris pied et puis d'une certaine façon ont pris sens dans des écoles, dans des milieux scientifiques, et on retrouve la notion de milieu, dans des sociétés qui sont devenues également objets d'études de l'histoire des sciences. D'une part, les enjeux épistémologiques des savoirs et des pratiques scientifiques sont devenus des enjeux des savoirs et pratiques de milieux scientifiques et non plus seulement d'individus. Et d'autre part, ces enjeux épistémologiques se sont combinés avec des enjeux nouveaux qui ont posé de nouvelles questions à l'histoire des sciences, des enjeux d'ordre sociaux, culturels, économiques, juridiques, de l'activité que pouvaient avoir ces milieux scientifiques. Et du coup, d'une histoire qui était essentiellement une histoire des découvertes scientifiques et des découvertes jugées a posteriori comme déterminantes, on est passé à une histoire de l'activité scientifique qui ne peut se résumer, et ça vous le savez bien, à celle des découvertes d'exception et des seuls hommes ou femmes, mais il y en a vraiment eu très peu d'exceptions. Et en changeant d'échelle quant à ces objets, l'histoire des sciences a commencé à fréquenter d'autres sources que la philosophie ou l'épistémologie, donc a été confrontée à d'autres problématiques, d'autres questions, d'autres objets. C'est-à-dire qu'elle s'est frottée à l'histoire, à la sociologie, et en France, entre autres, avec le rôle de Bourdieu. Et elle a donc enrichi les armes avec lesquelles elle pouvait interroger et étudier les sciences. À ce renouveau-là se combine un autre, dans les années 80, issu de ce qu'on a appelé les « social studies of science ». Et là encore, ça vient du monde anglo-saxon. Et ces années 70-80, c'est un moment, et ce n'est pas une coïncidence, où commence une période de mise en cause du progrès scientifique, de l'idée d'un progrès scientifique inquestionnable et d'un certain culte des sciences et des progrès qui en découlent, ou d'une mise en question, interrogation des sciences et des progrès qui en découlent. Les pères fondateurs de ces social studies, David Bloor, Harry Collins, ont développé ce qu'on appelle un programme fort de sociologie des sciences, dont deux règles vont avoir un impact particulier. Et deux règles qui sont fondées sur un principe de symétrie. Le premier, être impartial vis-à-vis de la fausseté et de l'erreur. C'est-à-dire, fausseté et erreur qui ne sont jugées telles qu'a posteriori, certaines fois. Et d'autre part, être symétrique dans le mode d'explication, dans le mode de travail, des croyances vraies, croyances et leurs mots, des croyances vraies et des croyances fausses. Alors, ces social studies, c'est beaucoup plus large que simplement l'histoire ou l'épistémologie au sens le plus classique. Les social studies, ça comprend la sociologie, l'anthropologie, et c'est entre autres de cette source-là qu'est venue cette idée de symétrie entre les vainqueurs et les perdants d'une controverse, entre les idées jugées finalement bonnes, qui se sont avérées bonnes, et les autres. D'où de nouvelles questions, de nouveaux intérêts. Et par exemple, analyser la science au moment où elle est encore ouverte, controversée, en train de se faire. Au moment où c'est encore un de leurs termes, mais qui a été repris, où elle est négociée dans ces processus de validation, qui ne sont pas aussi carrés que pouvait le laisser supposer l'intervention de Christian Pocciello. Étudier donc la science au moment où elle n'a pas encore été jugée, formulée, dans ce qui deviendra des énoncés validés a posteriori par les communautés scientifiques. Alors, l'héritage de Kuhn et des social studies a à son tour été négocié de façon diverse par différentes communautés de chercheurs. Et pour l'histoire des sciences, il en a résulté un enrichissement fort, la prise en compte de nouveaux objets, nouvelles problématiques, l'utilisation de nouveaux concepts. Cette nouvelle historiographie cherche à montrer, à démontrer en effet, comment le social et le culturel sont en permanence mobilisés pour fonder les savoirs scientifiques et les faire peser sur le monde. Elle insiste sur les cohérences liant les diverses pratiques humaines, scientifiques, technologiques, mais aussi sociales, culturelles, matérielles, économiques. Et enfin, elle insiste, et je retrouve Sabine, sur le tacite, le savoir-faire, les gestes et la maîtrise des corps, de l'espace et de son efficace propre. Tout cela devient au cœur des questionnements des historiens des sciences. Donc, des liens avec toute une série de disciplines, un enrichissement des questions, un enrichissement des concepts. Dernière origine à cette mise en culture, en société des sciences et des techniques, en partie indépendante des précédentes. Dans les mêmes années, 80, 70, 80, des chercheurs historiens des sciences ont permis que des civilisations entières fassent enfin irruption sur la scène de l'histoire des sciences, jusqu'ici ultra dominée par la science occidentale et son origine, mythique pour une part, quand elle se résume à la seule civilisation grecque. Depuis 20 ans, s'accumulent de nouveaux travaux sur les sciences arabes, chinoises, indiennes, qui élargissent et bouleversent des réflexions, des certitudes d'ordre méthodologique, épistémologique, historique, culturel, social, sur les sciences et leur développement. Un domaine où cela a été particulièrement sensible, c'est l'histoire des mathématiques et l'universalité supposée des mathématiques, de la démonstration euclidienne, des mathématiques grecques, avec la redécouverte d'une autre façon de fonctionner, d'une autre façon de prouver, d'une autre façon de construire un savoir mathématique. Autre domaine dans lequel ce dernier enrichissement se sent, c'est l'ouverture d'un domaine comme celui, un domaine qui s'est appelé science et empire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ont pu être les sciences dans les colonies ou dans les domaines de l'Empire britannique qui n'était pas l'Angleterre elle-même, par exemple. Et ça a été la mise en cause d'un modèle diffusionniste de la science occidentale pour expliquer le développement des sciences dans d'anciennes colonies ou dans des pays comme l'Inde, par exemple, et les composantes de l'Empire. Je passe moi aussi très vite dans la mesure où j'essaye de faire un panorama un peu vaste. Alors, dans ce renouvellement de la discipline, le XXe siècle se trouve devenir un objet d'étude particulier. Alors, j'aimerais essayer de voir pourquoi, dans la mesure où toutes les nouvelles problématiques dont j'ai parlé peuvent fonctionner, et fonctionnent d'ailleurs, sur d'autres périodes. On a revisité l'histoire de Galilée, de Lavoisier, l'avènement de la science moderne, le miracle grec, Fermat, la théorie des nombres, les rapports entre la chimie, l'alchimie, etc. Donc, toutes les périodes peuvent se nourrir de ce renouvellement historiographique. Pourquoi donc cet engouement pour le XXe siècle, cet engouement assez récent pour le XXe siècle en histoire des sciences? Il y a un premier argument qui pourrait dire qu'il est naturel d'avancer dans le temps, que maintenant on est au XXIe siècle et donc faire l'histoire du XXe siècle, c'est banal. Ceci dit, rien n'est jamais spontanément naturel. Je voudrais mettre en avant rapidement, là encore, deux éléments. Le premier, c'est que le lien nouveau à l'histoire qu'a construit l'histoire des sciences, à l'histoire sociale, économique, politique, institutionnelle. L'histoire des sciences en profite. Avec ce lien nouveau, l'histoire des sciences profite de la force et de la vitalité des recherches en histoire contemporaine. Et les recherches en histoire contemporaine, qui, elles, sont de plein pied dans l'histoire du XXe siècle, y compris du second XXe siècle. Mais l'histoire des sciences profite également des faiblesses de cette histoire contemporaine. Et une des grandes faiblesses de l'histoire contemporaine, c'est l'absence quasi totale de réflexion et de travail sur les sciences. Donc, d'une certaine façon, on a un appel d'air et un vide à combler, c'est-à-dire on est porté par ces recherches historiques qui se développent et on se trouve devant un champ immense à combler, les historiens n'ayant pas travaillé ou extrêmement peu travaillé, y compris les historiens de la culture, de l'industrie, etc., les rapports avec les sciences, les techniques, etc. Donc on a là un champ à remplir fort. Deuxième élément, avec ces nouvelles questions et ces nouveaux intérêts, l'histoire des sciences peut devenir un outil pour penser les questions dites science-société, considérées aujourd'hui comme des questions politiques sociétales de première importance. Et l'étude du XXe siècle est donc à la fois une opportunité pour les historiens des sciences, mais en même temps, d'une certaine façon, une commande pour les historiens des sciences aujourd'hui. Et cette commande, dont vous avez vu deux exemplaires avec les séminaires que je vous ai présentés, est une commande, je reviendrai à la fin, qui pèse assez lourd dans la mesure où, vous le savez dans vos propres domaines, on a l'intuition, une connaissance implicite, là aussi tacite, de ce que peuvent être les domaines porteurs, les domaines pour lesquels on peut avoir des bourses pour les doctorants, les domaines pour lesquels on aura des crédits, les domaines qui vont intéresser, et les domaines, en fait, dans lesquels les historiens des sciences, et ça devient d'une certaine façon une facette, ça pourrait devenir une nouvelle facette dans leur rôle, où les historiens des sciences sont convoqués comme des experts pour réfléchir et penser sur des questions de la science, des rapports entre la science et la société aujourd'hui. Alors, au niveau de mon laboratoire, comment est-ce que cela se traduit pour nos orientations ? Dans son introduction, Jean-Louis Martin regrettait qu'il n'y ait pas de recherche, d'études sur les programmes de recherche, les rapports, les appels d'offres, etc. Donc je me suis amusée à me livrer sans filet un peu à cet exercice en ce qui concerne mon propre laboratoire. Et dans la mesure où on sort de la rédaction d'un plan quadriennal, on a à la fois dû réfléchir sur le bilan, les perspectives. Donc ça peut permettre de répondre à ce type de questions. Les questions de recherche dans mon laboratoire sont partie prenante de cette nouvelle façon de penser l'histoire des sciences et de penser les sciences et leur histoire. Tout d'abord, elles concernent des dimensions essentielles de la vie scientifique et du développement des sciences qui jusqu'ici ont été ignorées ou laissées de côté par l'histoire qui a pu en être faite. Ces dimensions, ce sont la diffusion, la mise en circulation, y compris dans la sphère de l'enseignement, la mise en société des sciences, qui sont aujourd'hui des questions historiques légitimes et non pas considérées comme mineures en histoire des sciences. Ceci étant l'aboutissement du renouvellement dont je vous ai parlé. Et puis, deuxième trait du renouvellement dont j'ai parlé, elles sont liées au XXe siècle. Sur le contrat quadriennal précédent, je vous donnerai quelques exemples, elles étaient liées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Sur le contrat quadriennal à venir, elles sont délibérément hissées sur l'après-guerre. Donc on est partie prenante et on a la réflexion qu'on a... après Deuxième Guerre. Alors, pour ce qui est des recherches sur fin 19e, début 20e, et entre deux guerres pour l'une d'elles, j'en donnerai trois extrêmement rapidement. On a récemment mené la première étude qui a été faite en France, alors que des études analogues avaient été faites en Grande-Bretagne, ou au Canada, ou en Espagne. Bon, on a récemment mené la première étude sur une grande association scientifique des débuts de la Troisième République chez nous, créée juste après la défaite française de la guerre de 1870, l'Association française pour l'avancement des sciences, la FAS. La devise de cette association, je vous la donne, « Par la science, pour la patrie ». Et à elle seule, elle traduit tout à la fois les ambitions scientifiques, mais aussi idéologiques, sociales, économiques et politiques de son projet fondée sur le développement et la culture des sciences, et un projet qui est totalement identifiable au rapport entre science, État, politique des débuts de la Troisième République. On vient également de mener une étude sur un autre des fleurons de la Troisième République, dans le domaine de l'histoire de l'enseignement, un dictionnaire de pédagogie, le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Cette enquête avec un collègue, dirigée entre autres par un collègue qui appartient au laboratoire de Catherine Louveau et Christian Possiello. Cette enquête sur les savoirs scolaires, et pour ce qui nous concerne, on a assuré le côté savoir scolaire scientifique, déconstruit en grande part le mythe attaché à ce moment soi-disant fondateur d'une égalité républicaine basée sur l'école et sur la science. Enfin, ces deux travaux étant finis et publiés, nous sommes en train de conduire un projet sur la France de l'entre-deux-guerres. Donc on a commencé à monter, nous aussi, sur le XXe siècle. Et un projet sur les savoirs et les milieux scientifiques de la France de l'entre-deux-guerres, nous intéressant aux milieux scientifiques les plus larges et à leur engagement dans les revues générales de sciences, cherchant à repérer quelles étaient les identités et les représentations de la science, de ses enjeux, de ses intérêts, que ces scientifiques défendent alors dans ces journaux. Et donc, d'une certaine façon, la caractéristique de ces recherches, c'est d'avoir déserté ce qui, jusque-là, a été la partie la plus noble et la plus mise en avant de l'histoire épistémologique des sciences, c'est-à-dire les hommes d'exception, les résultats d'exception. Pour ce qui est du contrat quadriennal à venir, nous avons développé deux projets et qui, tous les deux, montent sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, dans un double souci, l'opportunité, la commande, l'intérêt intellectuel, continuer à mener notre réflexion des rapports science, État, nation, pouvoir, représentation sur l'ensemble du XXe siècle, donc continuer sur le siècle, et de même continuer notre réflexion sur l'histoire de l'enseignement des sciences, de ses enjeux sociaux et épistémologiques, sur une période plus proche de la nôtre. Donc la cohérence intellectuelle, elle y est, l'envie, l'enjeu intellectuel, il y est, mais il y a aussi l'idée qu'avec ce type de travaux, par exemple pour ce qui est de l'histoire de l'enseignement, Alors, je décris celui sur l'enseignement. Ce qu'on veut essayer d'analyser, c'est de mettre en relation les grandes réformes disciplinaires et institutionnelles dans le monde scolaire des années 1950 à 1980. Je résume, la mise en place du collège unique. Et vous voyez du coup l'intérêt contemporain d'une réflexion de ce type. Donc, la mise en relation de ces grandes réformes disciplinaires et institutionnelles et des réformes de contenu scolaire et des grandes réformes de contenu scolaire qui ont eu lieu à la même période. Deuxième recherche que nous... Et cette recherche aussi, on la lance avec le collègue des STAPS, puisque ça va être une recherche sur l'ensemble des disciplines. Deuxième recherche que nous lançons, c'est dans le cadre de nos études sur les lieux, les acteurs, les contenus, les pratiques de la diffusion et de la circulation des savoirs scientifiques. Cette deuxième recherche a pour objet les facultés et campus de sciences dans la seconde moitié du XXe siècle. Et là, vous voyez d'une certaine façon l'intérêt qu'on peut avoir à penser, retrouver, discuter avec des collègues qui travaillent sur des questions liées à l'économie de la science, le droit de la science, l'insertion de la science dans l'économie, etc. La recherche que nous voulons faire étant de penser les campus, et qui est une recherche, nous, ce sera Orsay, mais c'est une recherche qui s'organise au plan national avec des collègues de différents campus. Et donc, la question est d'étudier ces campus dans leur contexte local, régional, national, leur contexte économique, leur contexte de collectivité et en même temps les liaisons entre une institution d'enseignement supérieur Et puis les autres institutions de recherche ou de technologie qui peuvent être dans le bassin dans lequel elles se trouvent. Alors, pour en arriver à la fin de mon exposé, ces deux derniers axes que je vous ai donnés, c'est-à-dire les axes qui vont structurer nos recherches sur 4 ans, il se trouve, et ce n'est évidemment pas un hasard, que ça nous a permis de répondre favorablement à une demande de l'université qui veut réaliser un projet d'université ouverte sur la cité en investissant un lieu à Fontenay-aux-Roses et qui voudrait réunir un certain nombre d'équipes de recherche dont font aussi partie, l'a dit, les équipes de sport, de réunir un certain nombre d'équipes de recherche qui ont des préoccupations d'études ouvertes sur la société, d'une réflexion sur les savoirs, les champs ouvertes sur la société, et qui puissent d'une certaine façon apparaître comme des experts sur un certain nombre de questions, sciences, société. Et donc, avec ces deux projets, l'histoire de l'enseignement d'une part, l'étude d'un campus de sciences, on se trouve au cœur, ce que je disais tout à l'heure, de questions les plus immédiates de réflexion sur les sciences. Je terminerai en disant qu'à mon sens, il y a un danger dans ce rôle d'expert qu'on veut et qu'accepte, parce qu'il faut bien qu'on puisse mener nos recherches, qu'on veut donner aux historiens des sciences. C'est que dans un mouvement de balancier, on oublie aussi que l'histoire des sciences n'a pas commencé au XXe siècle, qu'on oublie aussi que dans les sciences, il y a des savoirs en jeu, des pratiques, et qu'on ne laisse pas l'ensemble des cartes que les historiens des sciences ont en main pour essayer de comprendre et de réfléchir la façon dont cet ensemble de pratiques, de savoirs, de connaissances se construit, se diffuse, se débat, se négocie, s'enseigne, et que donc, d'une certaine façon, on oublie ce qui, à un moment, a, et ça a été dommageable, envahi toute la scène, et que pour des raisons d'opportunité et d'appel d'offres, par exemple, européen ou autre, le balancier reparte totalement dans l'autre sens. Merci.